Chapitre 16. Les affaires d'État et les affaires de famille. En quittant la Bastille, le duc avait ramené Hélène chez elle, en lui promettant de venir la voir comme d'habitude de 8 à 10 heures du soir, promesse dont Hélène lui eût eu une reconnaissance plus grande encore si elle avait su que le même soir, son Altesse avait grand bal masqué à Monceau. Rentrant au palais royal, le duc demanda Dubois. On lui répondit qu'il était dans son cabinet et travaillait. Le duc monta lentement les escaliers, selon sa coutume, et entra dans l'appartement sans vouloir qu'on l'annonçât. En effet, Dubois, assis devant une table, travaillait avec une telle ardeur qu'il n'entendit même pas le duc qui, après avoir ouvert et refermé la porte, s'avança sur la pointe du pied et regarda par-dessus son épaule à quelle sorte de travail il se livrait avec tant d'acharnement. Il écrivait sur une espèce de tableau des noms avec des accolades, avec une instruction détaillée en face de chaque nom. « Que diable fais-tu donc là, l'abbé ?» dit le régent. « Ah, c'est vous, monseigneur, pardon, je ne vous avais pas entendu venir, sans quoi... »« Je ne te demande pas cela, » dit le régent, « je te demande ce que tu fais. »« Je signe les billets d'enterrement de nos amis de Bretagne. » Ben, rien n'est décidé encore sur leur sort, tu vas comme un fou, et la sentence de la commission, je la connais, dit Dubois. Elle est donc rendue? Non, mais je l'ai dictée avant son départ. Savez-vous que c'est odieux, l'abbé, ce que vous faites là? En vérité, monseigneur, vous êtes insupportable. Mêlez-vous de vos affaires de famille et laissez-moi les affaires d'État. Mes affaires de famille? Oh, pour cela, je l'espère, je suis de bonne composition. Oh, par Dieu, vous êtes bien difficile. Vous me recommandez M. Gaston de Chanlay, et sur votre recommandation, je lui fais une Bastille à l'eau de rose, des repas succulents, des messes charmantes, un gouverneur adorable. Je lui laisse percer des trous dans vos planchers et dégrader vos murs, qui nous coûtent très cher à réparer. Depuis son entrée, tout le monde est en fête. Duménil bavarde toute la journée par sa cheminée. Mademoiselle de Launay pêche à la ligne par sa fenêtre. Pompadour boit du vin de champagne. Il n'y a pas jusqu'à Laval qui ne prenne des lavements à tout rompre, 3 par jour. Il n'y a rien à dire à cela, ce sont vos affaires de famille. Mais pour là-bas, en Bretagne, ah, vous n'avez rien à y voir, monseigneur, et je vous défends d'y regarder, à moins toutefois que vous n'ayez encore semé par là une douzaine de filles inconnues, ce qui est bien possible. Dubois, faquin! Vous croyez avoir tout dit quand vous m'avez appelé Dubois et que vous avez ajouté l'épithète de faquin à mon nom? Eh bien, faquin tant qu'il vous plaira, mais en attendant, sans le faquin, vous étiez assassiné. Eh bien, après. Après, ah, l'homme d'État. Eh bien, après, j'étais pendu, moi peut-être. Voilà d'abord une considération. Ensuite, Madame de Maintenon était régente de France. Quelle facétie. Après... Et dire que c'est un prince philosophe qui hasarde de pareilles naïvetés. Oh, Marc Aurèle, n'est-ce pas lui qui a dit « Cette absurdité, monseigneur, populos esse demum felices, si reges philosophie forent, oh, philosophie reges, voilà un échantillon !» Et se disant, Dubois écrivait toujours. « Dubois, dit le régent, tu ne connais pas ce garçon. »« Quel garçon ? Le chevalier. »« Ah, vraiment, vous me le présenterez quand il sera votre gendre. » Alors ce sera demain, Dubois. L'abbé se retourna stupéfait, les deux mains appuyées au bras de son fauteuil et regardant le régent de ses petits yeux aussi écarquillés que le permettait l'exiguïté de ses paupières. Ça, monseigneur, vous êtes fou, dit-il. Mais non, c'est un honnête homme et les honnêtes gens sont rares. Tu le sais mieux que personne, l'abbé. Honnête homme, ah, monseigneur, permettez-moi de vous dire que vous entendez singulièrement l'honnêteté. « Oui, dans tous les cas, je ne crois pas que toi et moi l'entendions de la même manière. »« Et qu'a-t-il fait de plus, l'honnête homme? A-t-il empoisonné le poignard avec lequel il devait vous frapper? Dans ce cas, il n'y aurait rien à dire. Ce serait plus qu'un honnête homme, ce serait un saint. Nous avons déjà Saint-Jacques-Clément, Saint-Ravaillac, Saint-Gaston manque à notre calendrier. Vite, vite, monseigneur, vous qui ne voulez pas demander au pape le cardinalat pour votre ministre, demandez-lui la canonisation pour votre assassin, et pour la première fois de votre vie, vous serez logique. Dubois, je te dis qu'il y a peu d'hommes capables de faire ce qu'a fait ce jeune homme. Peste heureusement, s'il y en avait seulement 10 en France, je vous déclare, monseigneur, que je donnerais ma démission. Je ne parle pas de ce qu'il a voulu faire, dit le régent, je parle de ce qu'il a fait. Eh bien, qu'a-t-il fait? Voyons, j'écoute, je ne demande pas mieux que d'être édifié, moi. D'abord, il a tenu le serment qu'il a fait à d'Argenson. Oh, cela je n'en doute pas, c'est un garçon fidèle à sa parole, et sans moi, il tenait aussi celui qu'il avait fait à messieurs de Pontcallec, que mon Louis Talouette, etc. Oui, mais l'un était plus difficile que l'autre. Il avait juré de ne parler de sa condamnation à personne, et il n'en a pas parlé à sa maîtresse. Ni à vous. À moi, il m'en a parlé, parce que je lui ai dit qu'il était inutile de nier et que je la connaissais, alors il m'a défendu de rien demander pour lui au régent, ne désirant rien obtenir, m'a-t-il dit, qu'une seule grâce. Laquelle, voyons? Celle d'épouser Hélène afin de lui laisser une fortune et un nom. Bon, il veut laisser une fortune et un nom à votre fille. Eh bien, mais il est poli, votre gendre. Oublies-tu que tout cela est un secret pour lui? Qui sait? Dubois, j'ignore dans quoi on t'a trempé les mains le jour où tu es venu au monde, mais ce que je sais, c'est que tu salis tout ce que tu touches. Excepté les conspirateurs, monseigneur, car il me semble qu'en pareille circonstance, au contraire, je nettoie assez bien. Dubois, tu plaisanterais avec l'Évangile. Pardieu, j'ai commencé par là. Le régent se leva. Allons, allons, monseigneur, dit Dubois, j'ai tort. J'oubliais que vous êtes à jeun. Voyons la fin de l'histoire. Eh bien, la fin de l'histoire est que j'ai promis de demander cette autorisation au régent et que le régent l'accordera. Le régent fera une sottise. Non, monsieur, il réparera une faute. Allons bien. Il ne nous manquait plus que de découvrir que vous deviez une réparation à monsieur de Chanlay. Pas à lui, mais à son frère. Encore mieux, mais ce gaillard-là, c'est l'agneau de La Fontaine, et que lui avez-vous fait à ce frère? Je lui ai enlevé une femme qu'il aimait. Laquelle? La mère d'Hélène. Bien, pour cette fois, vous avez eu tort, car si vous la lui aviez laissée, nous n'aurions pas aujourd'hui toute cette mauvaise affaire sur les bras. Nous l'avons, et il faut nous en tirer du mieux possible. C'est à quoi je travaille, et c'est à quand le mariage, monseigneur? À demain. Dans la chapelle du palais royal, vous serez là en costume de chevalier de l'ordre, vous étendrez les deux mains sur la tête de votre gendre, une de plus qu'il n'en voulait étendre vers vous, ce sera on ne peut plus touchant. Non, cela ne se passera pas tout à fait ainsi, ils se marieront à la Bastille, où je serai dans une chapelle où ils ne pourront me voir. Eh bien, monseigneur, je demande à y être avec vous. C'est une cérémonie que je veux voir. On dit ces sortes de choses fort attendrissantes. Non pas, tu me gênerais. Ta laide physionomie dénoncerait mon incognito. Votre belle physionomie est plus reconnaissable encore, monseigneur, dit Dubois en s'inclinant. Il y a des portraits d'Henri IV et de Louis XIV à la Bastille. C'est bien flatteur. Monseigneur se retire. Oui, j'ai donné un rendez-vous à Delaunay, le gouverneur de la Bastille. Oui. Allez, monseigneur, allez. À propos, te verra-t-on cette nuit à Monceau? Peut-être. As-tu ton déguisement? J'ai mon costume de la Jonquière. Chut, il est de misque aux Mouilles d'Amour et à la rue du Bac. Monseigneur oublie la Bastille, où il a quelques succès, sans compter, ajouta Dubois avec son sourire de singe, ce qu'il aura encore. C'est bien, adieu l'abbé. Adieu, monseigneur. Le régent sortit. Resté seul, Dubois s'agita sur son fauteuil, puis resta pensif, puis se gratta le nez, puis sourit. C'était signe qu'il prenait une grande résolution. En conséquence, il allongea la main vers la sonnette et sonna. Un huissier entra. « Monsieur Delaunay, le gouverneur de la Bastille, va venir chez monseigneur le régent, dit-il. Guettez-le à sa sortie et amenez-le-moi. » L'huissier s'inclina et se retira sans répondre. Et Dubois se remit à son travail funèbre. Au bout d'une demi-heure, la porte se rouvrit et l'huissier annonça monsieur Delaunay. Et Dubois lui remit une note très détaillée. « Lisez cela, lui dit Dubois, je vous donne des instructions écrites afin que vous n'ayez aucun prétexte de vous en écarter. » Delaunay lut la note avec tous les signes d'une consternation croissante. « Monsieur, dit-il lorsqu'il eut fini, vous voulez me perdre de réputation ?»« Comment cela ? Demain, lorsqu'on saura ce qui s'est passé, qu'il dira, est-ce vous ?»« Non, mais monseigneur sera enchanté, je vous réponds de lui, un gouverneur de la Bastille. Tenez-vous à garder ce titre ? Sans doute. Faites ce que j'ordonne alors. » Il est cependant bien dur, quand on est surveillant, de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Mon cher gouverneur, allez donc faire une visite dans la cheminée de Duménil, dans le plafond de M. Pompadour et dans la seringue de M. de Laval. Que dites-vous, monsieur, serait-il possible, mais vous me parlez là de choses que j'ignore complètement. Preuve que je sais mieux que vous ce qui se passe à la Bastille, et si je vous parlais de certaines choses que vous savez, vous seriez bien plus étonné encore. « Que pourriez-vous me dire ? » demanda le pauvre gouverneur tout interdit. « Je pourrais vous dire qu'il y a aujourd'hui 8 jours, un des fonctionnaires de la Bastille, un des plus hauts placés même, a reçu de la main à la main 50 000 livres pour laisser passer 2 marchandes à la toilette. Monsieur, c'était... Je sais qui c'était, ce qu'elles allaient faire et ce qu'elles ont fait. » C'était mesdemoiselles de Valois et de Charolais. Ce qu'elles allaient faire, elles allaient voir monsieur le duc de Richelieu. Ce qu'elles ont fait, elles ont mangé des bonbons jusqu'à minuit dans la tour du coin où elles comptent retourner demain, à telles enseignes qu'aujourd'hui mademoiselle de Charolais en a fait donner avis à monsieur de Richelieu. Delaunay pâlit. Eh bien, continua Dubois, croyez-vous que si je racontais ces sortes de choses au régent, qui est très friand de scandale, comme vous savez, certain monsieur Delaunay serait longtemps gouverneur à la Bastille? Mais non, je n'en souffle pas le mot, je sais qu'il faut s'entraider les uns les autres. Je vous aide, monsieur Delaunay, aidez-moi donc. À vos ordres, monsieur, dit le gouverneur. Ainsi c'est dit, je trouverai toutes choses prêtes. « Je vous le promets, monsieur, mais pas un mot à monseigneur. »« Allons donc. Adieu, monsieur Delaunay. Adieu, monsieur Dubois. » Et Delaunay se retira à reculons en faisant force révérence. « Bon, dit Dubois, et maintenant, monseigneur, à nous deux, et quand demain vous voudrez marier votre fille, il ne vous manquera plus qu'une chose, ce sera votre gendre. » Au moment même où Gaston venait de se coucher, la porte s'ouvrit et le gouverneur entra. Comme il n'avait pas l'habitude de visiter les prisonniers à cette heure-là, Gaston jeta un regard rapide et inquiet sur lui et crut remarquer qu'il était troublé. De plus, le gouverneur, qui paraissait vouloir rester seul avec Gaston, prit la lampe des mains de celui qui la portait. Le chevalier s'aperçut qu'en la posant sur la table, la main du gouverneur tremblait. Les porte-clés se retirèrent, mais le prisonnier s'aperçut qu'on avait placé 2 soldats à sa porte. Un frisson lui courut par tout le corps. Ses apprêts silencieux avaient quelque chose de funèbre. « Chevalier, dit le gouverneur, vous êtes un homme, et vous m'avez dit de vous traiter en homme. J'ai appris ce soir que votre arrêt vous avait été lu hier. » Et vous venez me dire, n'est-ce pas, monsieur, dit Gaston, avec cette fermeté qu'il reprenait toujours en face du danger, vous venez me dire, n'est-ce pas, que l'heure de mon exécution est arrivée? Non, monsieur, mais je viens vous dire qu'elle l'approche. Et quand doit-elle avoir lieu? Puis-je vous dire la vérité, chevalier? Je vous en serai reconnaissant, monsieur. Demain, au point du jour. Et où cela? Sur la place de la Bastille. Merci, monsieur. Cependant, j'avais un espoir. Lequel? C'est qu'avant de mourir, je deviendrai l'époux de la jeune fille que vous avez conduite près de moi aujourd'hui. Monsieur d'Argenson, vous avait-il promis cette grâce? Non, monsieur. Il s'était engagé seulement à la demander au roi. Peut-être le roi aura-t-il refusé? N'accorde-t-il donc jamais de pareilles grâces? C'est rare, monsieur. Cependant, la chose n'est point sans exemple. Monsieur, dit Gaston, je suis chrétien. J'espère qu'on ne me refusera point un confesseur. Il est déjà ici. Puis-je le voir? Dans quelques instants. Pour le moment, je crois qu'il est près de votre complice. Mon complice? Et quel complice? Le capitaine La Jonquière. Le capitaine La Jonquière, s'écria Gaston. Il est condamné comme vous et sera exécuté avec vous. Le malheureux, murmura le chevalier, c'est moi qui le soupçonnais. En ce moment, on frappa à la porte. Le gouverneur alla ouvrir. C'était le major. Il échangea quelques mots avec monsieur de Launay. Le gouverneur revint à Gaston qui, debout et la main appuyée au dossier d'une chaise, était pâle mais paraissait tranquille. « Monsieur, lui dit-il, le capitaine La Jonquière me fait demander la permission de vous voir encore une dernière fois. »« Vous la lui refusez ?» répondit Gaston avec un sourire légèrement ironique. « Non, monsieur, je la lui accorde au contraire, dans l'espérance qu'il sera plus raisonnable que vous, et qu'il vous fait demander pour s'entendre avec vous sur les aveux que vous devez faire. » Monsieur de Launay marcha le premier, Gaston vint derrière, et les deux soldats qui étaient à la porte vinrent derrière Gaston. On traversa les mêmes corridors et les mêmes cours que la première fois. Enfin, on s'arrêta devant la tour du trésor. Monsieur de Launay plaça les deux sentinelles devant la porte, puis il monta 12 marches, toujours suivi de Gaston. Un porte-clés qu'il rencontra sur l'escalier les introduisit tous deux chez la Jonquière. Le capitaine avait son même habit en lambeaux et était couché comme la première fois sur son lit. En entendant ouvrir sa porte, il se retourna, et comme monsieur de Launay marchait le premier, sans doute il ne vit que lui et reprit sa première position. « Je croyais monsieur l'aumônier de la Bastille près de vous, capitaine, » dit monsieur de Launay. « Il était en effet, monsieur, mais je l'ai renvoyé. »« Et pourquoi cela ?» Parce que je n'aime pas les jésuites. Est-ce que vous croyez, morbleu, que j'ai besoin d'un prêtre pour bien mourir ? Bien mourir, monsieur, n'est pas mourir bravement, c'est mourir chrétiennement. Si j'avais voulu un sermon, j'aurais gardé l'aumônier, qui s'en serait tiré aussi bien que vous. Mais j'avais demandé monsieur Gaston de Chanlay. Et le voilà, monsieur, j'ai pour principe de ne rien refuser à ceux qui n'ont plus rien à attendre. « Ah, c'est vous, chevalier, » dit la Jonquière en se retournant, « soyez le bienvenu. »« Capitaine, » dit Gaston, « je vois avec douleur que vous refusez les secours de la religion. »« Ah, vous aussi. Bon, si vous dites encore un mot là-dessus, l'un ou l'autre, je vous déclare que je me fais huguenot. »« Pardon, capitaine, » dit Gaston, « mais j'avais cru de mon devoir de vous donner le conseil de faire ce que je ferais moi-même. » Aussi je ne vous en veux pas, chevalier. Quand je serai ministre, je proclamerai la liberté des cultes. Maintenant, monsieur de Launay, continua la Jonquière en se grattant le nez, vous devez comprendre que lorsqu'on est sur le point d'entreprendre en tête à tête un voyage aussi long que celui que nous allons faire, le chevalier et moi, on n'est pas fâché de causer un peu sans témoin. Je vous comprends, monsieur, et je me retire. Chevalier, vous avez une heure à rester ici. Dans une heure, on viendra vous reprendre. Merci, monsieur, dit Gaston, en s'inclinant en signe de remerciement. Le gouverneur sortit, et Gaston l'entendit donner en sortant des ordres qui avaient sans doute pour but un redoublement de la surveillance. Gaston et la Jonquière se retrouvèrent seuls. Eh bien, dit le capitaine. « Eh bien, reprit Gaston, vous aviez raison, et vous me l'aviez bien dit. »« Oui, dit la Jonquière, mais je suis exactement comme cet homme qui tournait autour de Jérusalem en criant « Malheur !» Pendant 7 jours, il tourna en criant ainsi, et le 7e jour, une pierre lancée des murailles l'atteignit et le tua. « Oui, je sais que vous êtes condamné aussi et que nous devons mourir ensemble. »« Ce qui vous contrarie un peu, n'est-ce pas ?»« Beaucoup, car j'avais bien des raisons de tenir à la vie. » On en a toujours. Oui, mais moi, plus qu'un autre. Alors, mon cher ami, je ne sais qu'un moyen. Faire des révélations, jamais. Non, mais fuir avec moi. Comment fuir avec vous? Oui, je décampe. Mais vous savez que notre exécution est fixée à demain matin. Aussi, je décampe cette nuit même. Vous fuyez, dites-vous? Parfaitement. Et par où? Comment? « Ouvrez cette fenêtre. J'y suis. » Secouez le barreau du milieu. « Grand Dieu! Est-ce qu'il résiste? Non, au contraire, il vient. À la bonne heure, il m'a donné assez de peine, Dieu merci. Il me semble que c'est un rêve. Vous rappelez-vous que vous m'avez demandé si je ne m'amusais pas aussi à percer quelque chose comme les autres? Oui, mais vous m'avez répondu. » Que je vous répondrai plus tard. Voilà ma réponse. Trouvez-vous qu'elle en va d'une autre? « Excellente, mais comment descendre ? Aidez-moi. À quoi ? À fouiller dans ma paillasse. Une échelle de corde. Justement. Mais comment avez-vous pu vous la procurer ? Je l'ai reçue avec une lime dans un pâté de mauviette le jour même de mon arrivée. Oh, capitaine, vous êtes décidément un grand homme. Je le sais bien, sans compter encore que je suis un bon homme, car enfin, je pourrais me sauver seul. Et vous avez pensé à moi. Je vous ai fait demander en disant que je voulais m'entendre avec vous pour faire des aveux. Je savais bien qu'en les affriandant, je leur ferais faire quelques sottises. Dépêchons-nous, capitaine, dépêchons-nous. Chut, au contraire, faisons les choses lentement et sagement. Nous avons une heure devant nous, et il n'y a pas 5 minutes que le gouverneur est sorti. À propos, mais les sentinelles, il fait noir. Mais le fossé qui est plein d'eau, l'eau est gelée. Mais la muraille, quand nous y serons, il sera temps de nous en occuper. Faut-il attacher l'échelle ? Attendez-moi, je désire m'assurer par moi-même qu'elle est solide. Je tiens à mon échine, si pitoyable qu'elle soit, et je ne voudrais pas me casser le cou en tâchant d'empêcher qu'on me le coupe. Ah, vous êtes le premier capitaine de l'époque, mon cher La Jonquière. J'en ai fait bien d'autres, allez, dit La Jonquière en faisant le dernier nœud à son échelle. Est-ce fini ? Demanda Gaston. Oui. Voulez-vous que je passe le premier ? Comme il vous plaira. Cela me plaît. Et allez, en ce cas. Est-ce haut ? 15 ou 18 pieds. Bagatelle. Oui, pour vous qui êtes jeune, mais pour moi, c'est une affaire. Soyons donc prudents, je vous prie. Soyez tranquille. En effet, Gaston descendit le premier, lentement et prudemment, suivi par La Jonquière qui riait sous cap et maugréait chaque fois qu'il se meurtrissait les doigts ou que le vent balançait l'échelle de corde. Gaston toucha l'eau, ou plutôt la glace du fossé. Un instant après, La Jonquière était à ses côtés. La sentinelle, à moitié gelée, était dans sa guérite et n'avait rien vu. « Maintenant, suivez-moi, dit La Jonquière. » Gaston suivit le capitaine. De l'autre côté du fossé, une échelle les attendait. « Vous avez donc des complices ?» demanda Gaston. « Parbleu, croyez-vous que le pâté de mauviette est venu tout seul ?» Ils continuèrent de monter au haut du mur, et sur la plateforme se promenait une sentinelle. Mais au lieu de s'opposer à l'ascension des deux fugitifs, cette sentinelle offrit la main à La Jonquière pour l'aider à atteindre la plateforme. Puis, tous trois, en silence et avec la rapidité de gens qui connaissent la valeur des minutes, ils tirèrent l'échelle à eux et la replacèrent de l'autre côté de la muraille. La descente se fit avec le même bonheur que s'était faite l'ascension, et La Jonquière et Gaston se retrouvèrent dans un autre fossé gelé comme le premier. « Maintenant, dit le capitaine, emportons cette échelle pour ne pas compromettre le pauvre diable qui nous a aidés. »« Nous sommes donc libres ?» demanda Gaston. « Mais à peu près, répondit La Jonquière. » Cette nouvelle doubla la puissance de Gaston qui prit l'échelle sur son épaule et l'emporta. « Peste, chevalier, dit La Jonquière, feu Hercule était peu de chose auprès de vous, ce me semble. »« dit Gaston, en ce moment, j'enlèverai la Bastille. » Ils firent une trentaine de pas en silence et se trouvèrent dans une ruelle du faubourg Saint-Antoine. Quoiqu'il fût 9h30 à peine, les rues étaient désertes, car la bise soufflait violemment. « Maintenant, mon cher chevalier, dit La Jonquière, faites-moi l'amitié de me suivre jusqu'au coin du faubourg. » Je vous suivrai jusqu'en enfer. Non, pas si loin, s'il vous plaît, car pour plus grande sûreté, nous allons tirer chacun de notre côté. Qu'est-ce que cette voiture ? Demanda Gaston. La mienne. Peste, mon cher capitaine, une voiture à 4 chevaux. Vous voyagez comme un prince. À 3 chevaux, chevalier, car il y a un de ces chevaux pour vous. Comment, vous consentez ? Eh, pardieu, ce n'est pas le tout. Quoi ? Vous n'avez pas d'argent. On m'a fouillé et l'on a pris tout ce que je possédais sur moi. Voilà une bourse de 50 louis. Mais, capitaine, allons donc, c'est l'argent de l'Espagne, prenez. Gaston prit la bourse, tandis qu'un postillon dételait le cheval et l'amenait au chevalier. Maintenant, dit Dubois, où allez-vous? En Bretagne, rejoindre mes compagnons. Vous êtes fou, mon cher. Vos compagnons sont condamnés comme nous, et dans 2 ou 3 jours, peut-être, ils seront exécutés. Vous avez raison, dit Gaston. Allez en Flandre, dit La Jonquière, allez en Flandre, c'est un bon pays. En 15 ou 18 heures, vous aurez gagné la frontière.
Oui, dit Gaston d'un air sombre, merci.
Je sais où je dois aller.
Allons, bon voyage, dit Dubois, en montant dans sa voiture.
Il fait un vent, a décorné les buts.
Bon voyage, répondit Gaston, et tous deux se serrèrent la main une dernière fois, puis chacun gagna de son côté.
Le régent, selon son habitude, passait la soirée chez Hélène. Depuis 4 ou 5 jours, il n'y avait jamais manqué, et les heures qu'il donnait à la jeune fille étaient ses heures heureuses. Mais cette fois, la pauvre Hélène, que cette visite à son amant avait violemment émue, était revenue de la Bastille mortellement triste.
« Mais, disait le régent, rassurez-vous, Hélène, c'est demain que vous l'épouserez. »«
Demain est loin, répondit la jeune fille. »
« Hélène, reprenait le régent, croyez-en ma parole, qui ne vous a jamais manqué, je vous réponds que demain arrivera fort heureusement pour vous et pour lui. »
Hélène poussa un profond soupir. En ce moment, un domestique entra et parla bas au régent.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Hélène, que le moindre incident épouvantait.
« Rien, mon enfant, dit le duc, c'est mon secrétaire qui me demande pour me parler d'affaires pressées.
« Voulez-vous que je vous laisse ? »
« Oui, faites-moi ce plaisir pour un instant. »
Hélène se retira dans sa chambre. En même temps, la porte du salon s'ouvrit et Dubois entra tout essoufflé.
« D'où viens-tu encore ? » dit le régent, « et dans cet équipage ?»«
Parbleu, d'où je viens ? » dit Dubois, « de la Bastille. » »«
Et notre prisonnier ? » ?»«
Eh bien, a-t-on tout commandé pour son mariage ?»
« Oui, monseigneur, tout absolument, excepté l'heure que vous n'avez pas dite. »
« Eh bien, mettons cela à demain, 8 heures du matin. »«
À 8 heures du matin, reprit Dubois en calculant.
« Oui, que calcules-tu ? » ?»«
Je calcule où il sera. »
« Qui ? » ?»«
Le prisonnier. » »«
Comment le prisonnier ?»«
Oui, demain à 8 heures du matin, il sera à 40 lieues de Paris. »
« Comment, à 40 lieues de Paris ? » ?»«
Au moins s'il court toujours du train dont je l'ai vu partir. »
Que veux-tu dire ?
Je veux dire, monseigneur, qu'il ne manque plus qu'une chose au mariage, c'est le mari.
Gaston !
S'est enfui de la Bastille il y a une demi-heure.
Tu mens, l'abbé, on ne se sauve pas de la Bastille.
Oh, je vous demande pardon, monseigneur, quand on est condamné à mort, on se sauve de partout.
Il s'est sauvé, sachant qu'il devait épouser demain celle qu'il aimait.
« Écoutez donc, monseigneur, la vie est une chose friande, et on y tient. Puis, monseigneur, votre gendre a une tête fort agréable et désire la garder sur ses épaules. Quoi de plus naturel ? » ?»«
Et où est-il ? » ?»«
Où est-il ? Peut-être vous apprendrai-je cela demain soir, mais à cette heure, tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il est bien loin, et tout ce que je puis vous répondre, c'est qu'il ne reviendra pas. »
Le régent tomba dans une rêverie profonde.
« Mais, monseigneur, reprit Dubois, en vérité, votre naïveté cause mon éternel étonnement. Il faudrait ne pas connaître le cœur humain pour supposer qu'un homme condamné à mort restera en prison quand il peut se sauver. »«
Oh, monsieur de Chanlay, s'écria le régent,
« Eh, mon Dieu, ce chevalier, ce héros, a fait comme eût fait le dernier goujat, et en vérité, il a bien fait. »
Et Dubois, et ma fille,
eh bien, votre fille, monseigneur,
elle en mourra, dit le régent.
Eh non, monseigneur, en apprenant à connaître le personnage, elle s'en consolera et vous la marierez à quelque petit prince d'Allemagne ou d'Italie, au duc de Modène, par exemple, dont mademoiselle de Valois ne veut pas.
Dubois, et moi qui voulais lui faire grâce.
Il se l'est fait à lui-même, et il a trouvé la chose plus sûre, et ma foi, j'avoue que j'en aurais fait autant.
Toi, tu n'es pas gentilhomme, toi, tu n'avais pas fait de serment.
Vous vous trompez, monseigneur, j'avais fait celui d'empêcher votre Altesse de faire une sottise, et j'y ai réussi.
Allons, c'est bien, n'en parlons plus. Pas un mot de tout cela devant Hélène, je me charge de lui apprendre la nouvelle.
Et moi, de rattraper votre gendre.
Ah, non pas, il s'est sauvé, qu'il en profite. »
Au moment où le régent prononçait ces paroles, un bruit étrange retentit dans la pièce voisine et un huissier, entrant précipitamment, annonça « Monsieur le chevalier Gaston de Chanlay. »
Cette annonce produisit un effet bien différent sur les deux personnages qui l'entendirent. Dubois devint plus pâle qu'un mort et son visage se crispa sous une expression de colère menaçante. Le régent se leva dans un transport de joie qui couvrit au contraire sa figure d'une vive rougeur. Il y avait autant d'allégresse sur ce visage rendu sublime par la confiance que de fureur comprimée sur la fine et astucieuse figure de Dubois. « Faites entrer, » dit le régent. « Attendez au moins que je sorte, » dit Dubois. « Ah, c'est juste, il te reconnaîtrait. » Dubois se retira à pas lents et avec un grognement sourd, pareil à une hyène que l'on dérange de son festin et de ses amours. Il entra dans une pièce voisine. Là, il tomba, plutôt qu'il ne s'assit, sur un fauteuil placé devant une table éclairée de deux bougies et sur laquelle était tout ce qu'il fallait pour écrire. Cette vue parut faire naître en lui une idée nouvelle et terrible, car sa physionomie s'éclaira et il sourit. Il sonna. Un huissier entra. « Allez me chercher le portefeuille qui est dans ma voiture, » dit-il. Cet ordre fut exécuté à l'instant même. Dubois saisit à la hâte quelques papiers, les remplit précipitamment avec une expression de joie sinistre, remit le tout au fond du portefeuille, et puis, ayant fait avancer son carrosse, il ordonna de toucher au palais royal. Pendant ce temps, l'ordre donné par le régent s'exécutait, et les portes étaient ouvertes devant le chevalier. Gaston entra vivement et marcha droit au duc qui lui tendit la main. « Comment, vous voilà, monsieur ?» dit le duc, essayant de donner à sa physionomie l'expression de l'étonnement. « Oui, monseigneur, » dit Gaston, « un miracle s'est opéré en ma faveur par l'entremise du brave capitaine La Jonquière. Il avait tout préparé pour sa fuite. Il m'a fait demander, sous prétexte de s'entendre avec moi sur nos aveux, puis, quand nous avons été seuls, il m'a tout dit, et nous nous sommes évadés ensemble, et heureusement. Et au lieu de fuir, monsieur, de gagner la frontière, de vous mettre en sûreté, vous êtes revenu ici, au péril de votre tête. » « Monseigneur, » dit Gaston en rougissant, « je dois l'avouer, la liberté m'a d'abord paru la plus belle et la plus précieuse chose de la terre. Les premières gorgées d'air que j'ai respirées m'ont enivré, mais presque aussitôt, monseigneur, j'ai réfléchi à une chose, n'est-ce pas ? À deux, monseigneur, à Hélène que vous abandonniez, et à mes compagnons que je laissais sous le couteau. Et vous avez décidé alors que j'étais lié à leur cause jusqu'à ce que nos projets fussent accomplis. « Mais vous êtes donc furieux, monsieur, » dit le régent en souriant. « À quoi songez-vous de vouloir persister ainsi dans une entreprise devenue si difficile, maintenant qu'elle est presque insensée ?»« Je songe, monsieur, » dit Gaston, « je songe à nos amis, arrêtés, jugés, condamnés. Monsieur d'Argenson me l'a dit. » À nos amis qui attendent l'échafaud et que la mort seule du régent peut sauver, à nos amis qui diraient, si je quittais la France, que j'ai acheté mon salut au prix de leur perte et que les portes de la Bastille se sont ouvertes devant mes délations. Ainsi, monsieur, vous sacrifiez tout à ce point d'honneur, tout, même Hélène. Monseigneur, s'ils vivent encore, il faut que je les sauve. Mais s'ils sont morts, dit le régent, « alors c'est autre chose, » répondit Gaston, « alors il faut que je les venge. Mais auparavant, ne voulez-vous pas voir mademoiselle de Chaverny ?» dit le duc d'une voix légèrement altérée. « Oui, monseigneur, mais auparavant il faut que j'aie votre parole de m'aider dans mon projet. Songez donc, monseigneur, qu'il n'y a pas un instant à perdre, que mes compagnons sont là-bas jugés et condamnés comme je l'étais. » « Monseigneur, dites-moi tout de suite, avant que je voie Hélène, que vous ne m'abandonnez pas. Laissez-moi reprendre, en quelque sorte, un nouvel engagement avec vous. Je suis homme, j'aime, et par conséquent je suis faible. Je vais avoir à lutter contre les larmes et contre ma faiblesse. Monseigneur, je ne verrai Hélène qu'à la condition que vous me promettez de me faire voir le régent. Et si je refusais de prendre cet engagement ?» « Monseigneur, je ne reverrai pas Hélène. Je suis mort pour elle. Il est inutile qu'elle revienne à l'espoir pour le reperdre. C'est bien assez qu'elle me pleure une fois. »« C'est bien, monsieur. Entrez chez Hélène et vous trouverez ma réponse à votre retour. »« Où cela ? Dans cette chambre même. »« Et cette réponse sera selon mes désirs ? Oui. » Gaston passa chez Hélène. La jeune fille était agenouillée devant un crucifix priant Dieu de lui rendre son amant. Au bruit que fit Gaston en ouvrant la porte, elle se retourna. Elle crut que Dieu avait fait un miracle et jeta un grand cri en étendant les bras vers le chevalier, mais sans avoir la force de se relever. « Oh, mon Dieu, dit-elle, est-ce lui, est-ce son ombre ? C'est moi, Hélène, c'est bien moi !» s'écria le jeune homme en s'élançant vers Hélène et en lui saisissant les deux mains. « Mais comment toi, toi, prisonnier ce matin, toi, libre ce soir ?»« Je me suis sauvé, Hélène. Et alors tu as pensé à moi, tu es accouru à moi, tu n'as pas voulu fuir sans moi. Oh, que je reconnais bien là mon Gaston. Eh bien, me voilà, mon ami, je suis prête, emmène-moi où tu voudras, je suis à toi, je te suis. » « Hélène, dit Gaston, tu n'es pas la fiancée d'un homme ordinaire. Si je n'eusse rien eu de plus que les autres hommes, tu ne m'eusses pas aimé. »« Oh non, certes. Eh bien, Hélène, aux âmes d'élite, des devoirs plus grands et par conséquent des épreuves plus grandes sont imposées. J'ai à accomplir encore avant d'être à toi la mission pour laquelle je suis venu à Paris. Nous avons tous deux une destinée fatale à subir. » Que veux-tu, Hélène, mais s'il en est ainsi, notre vie ou notre mort ne tient plus qu'à un seul événement, et cet événement s'accomplira cette nuit même. Que dites-vous ? S'écria la jeune fille. Écoutez, Hélène, répondit Gaston, si dans 4 heures, c'est-à-dire à la pointe du jour, vous n'avez pas de nouvelles de moi, Hélène, ne m'attendez plus. Croyez que ce qui vient de se passer entre nous est un rêve, et si vous pouvez obtenir la permission, venez me revoir à la Bastille. » Hélène pâlit, ses bras retombèrent sans force à ses côtés. Gaston la prit par la main et la reconduisit devant son prie-Dieu, où elle s'agenouilla. Et puis, l'embrassant au front, comme eût fait un frère, « Continuez de prier, Hélène, dit-il, car en priant pour moi, vous priez encore pour la Bretagne et pour la France. » Et il s'élança hors de la chambre. « Hélas, hélas !» murmura Hélène, « sauvez-le, mon Dieu, sauvez-le ! Que m'importe le reste du monde ?» En rentrant au salon, Gaston trouva un huissier qui lui annonça que le duc était parti, mais qui lui remit un billet de sa part. Le billet était conçu en ces termes. « Il y a cette nuit bal masqué à Monceau, le régent y assistera. Il a l'habitude de se retirer seul vers 1 heure du matin, dans une serre qu'il affectionne et qui est située au bout de la galerie dorée. Là, d'ordinaire, personne n'entre que lui, parce qu'on connaît son habitude et qu'on la respecte. Le régent sera vêtu d'un domino de velours noir, sur le bras gauche duquel sera brodée une abeille d'or. Il cache ce signe dans un pli quand il désire rester inconnu. » La carte que je joins à ce billet est une carte d'ambassadeur. Avec cette carte, vous serez admis non seulement au bal, mais encore dans cette serre où vous aurez l'air d'aller chercher une entrevue secrète. Usez-en pour votre rencontre avec le régent. Ma voiture est en bas, vous y trouverez mon propre domino, le cocher est à vos ordres. » En lisant ce billet qui lui ouvrait toutes les portes et qui le conduisait, pour ainsi dire, face à face avec celui qu'il devait assassiner, une sueur froide passa sur le front de Gaston et il s'appuya au dossier d'une chaise. Puis, comme s'il eût pris une résolution violente, il s'élança hors du salon, descendit rapidement l'escalier et sauta dans la voiture en criant au cocher « À Monceau !» Mais à peine eut-il quitté le salon qu'une porte cachée dans la boiserie se rouvrit et que le duc parut. Il s'avança lentement vers la porte en face, qui était celle qui conduisait chez Hélène, qui jeta un grand cri de joie en l'apercevant. « Eh bien, lui dit le régent avec un triste sourire, êtes-vous contente, Hélène ?»« Oh, c'est vous, monseigneur, dit Hélène. Vous voyez, mon enfant, continua le régent, que mes prédictions se sont accomplies. Croyez en ma parole, espérez. » « Ah, monseigneur, vous êtes donc un ange envoyé sur la terre pour me tenir lieu du père que j'ai perdu. »« Hélas, dit le régent en souriant, je ne suis pas un ange, ma chère Hélène, mais tel que je suis, je vous tiendrai lieu, en effet, de père et d'un père bien tendre. » Et sur ces paroles, le duc prit la main de la jeune fille et voulut la baiser respectueusement, mais elle leva la tête et les lèvres du régent effleurèrent son front. « Je vois que vous l'aimez beaucoup, dit-il. Monseigneur, soyez béni. Puisse votre souhait me porter bonheur, dit le régent. » Et, toujours souriant, il la quitta, puis remonta en voiture. « Touche au palais royal, dit-il au cocher, mais fais attention que tu n'as qu'un quart d'heure pour aller à Monceau. » Le cocher brûla le pavé. Au moment où la voiture entrait au grand galop sous le péristyle, un courrier à cheval partait lui-même à fond de train. Dubois, l'ayant vu partir, ferma sa fenêtre et rentra dans les appartements. Pendant ce temps, Gaston roulait vers Monceau. Comme le lui avait dit le duc, il avait trouvé un masque et un domino dans la voiture. C'était un masque de velours noir et un domino de satin violet. Il mit l'un sur sa figure, l'autre sur ses épaules. Mais alors il pensa à une chose, c'est qu'il n'avait point d'armes. En effet, en sortant de la Bastille, il était accouru dans la rue du Bac, et maintenant il n'osait retourner à son ancien logement, à l'hôtel du Muy d'Amour, de peur d'être reconnu et arrêté. Il n'osait faire lever un coutelier de peur d'inspirer des soupçons en achetant un poignard. Il pensait qu'une fois arrivé à Monceau, une arme quelconque serait facile à se procurer. Mais à mesure qu'il approchait, ce qui lui manquait le plus, ce n'était point l'arme, mais le courage. Il se faisait en lui un combat terrible. L'orgueil et l'humanité étaient aux prises, et il fallait qu'il en revînt de temps en temps à se représenter ses amis en prison, condamnés, menacés d'une mort cruelle et infamante, pour que, ramené par un retour violent sur lui-même à sa première résolution, il continua son chemin. Aussi, quand la voiture entra dans les cours de Monceau et s'arrêta devant ce pavillon ardemment éclairé, malgré le froid glacial qu'il faisait, malgré la neige qui couvrait les lilas poudreux, si triste l'hiver, si beau et si parfumé au printemps, Gaston sentit-il une sueur froide qui perçait sous son masque et murmura-t-il le mot « déjà ». Cependant, la voiture était arrêtée. La portière venait de s'ouvrir, il fallait descendre. D'ailleurs, on avait reconnu le cocher particulier du prince, la voiture dont il se servait pour ses courses secrètes, et chacun s'était élancé, silencieux et prêt à obéir au premier ordre. Gaston ne remarqua point cet empressement. Il descendit d'un pas assez ferme, quoiqu'une espèce d'éblouissement passa sur ses yeux, et présenta sa carte. Mais les laquais ouvrirent respectueusement leur rang devant lui, comme pour lui dire que cette formalité du billet d'entrée était bien inutile. Gaston ne connaissait personne, et cependant, d'instinct, il devinait qu'il se trouvait au milieu de la plus délicate fleur de la société de cette époque. C'était en effet les hommes, les Noailles, les Brancas, les Brolois, les Saint-Simon, les Nocé, les Cagnac, les Biron. C'était, en femme, société plus mêlée peut-être, mais certes non pas moins spirituelle, non pas moins élégante, à part quelques grands noms qui boudaient à Sceaux ou à Saint-Cyr autour de Madame Dumaine et de Madame de Maintenon, toute l'aristocratie qui se ralliait autour du prince le plus brave et le plus populaire de la famille royale. Il ne manquait à cette représentation du grand siècle écoulé que les bâtards de Louis XIV et un roi. En effet, personne au monde, et ses ennemis eux-mêmes lui rendaient cette justice, ne savait ordonner une fête comme le régent. Ce luxe de bon goût, cette admirable profusion de fleurs qui embaumait les salons, ces millions de lumières que multipliaient les glaces, ces princes, ces ambassadeurs, ces femmes adorablement belles et délicieusement enjouées que l'on coudoyait, tout cela produisait son effet sur le jeune provincial qui, de loin, n'avait vu dans le régent qu'un homme, et qui, depuis, le connaissait pour un roi, et pour un roi puissant, spirituel, gai, aimable, aimé, et surtout populaire et national. Gaston sentit que le parfum de tout ce luxe lui montait à la tête et l'enivrait. Bien des yeux brillants sous le masque le percèrent comme des poignards rougis. Son cœur bondissait par soubresauts. Lorsqu'en cherchant parmi toutes ses têtes, celle à laquelle ses coups étaient destinés, il apercevait un domino noir. Il allait coudoyant et heurtant, se laissant balancer comme une barque sans aviron et sans voile, par ces flots qui roulaient tout autour de lui, s'inclinant et se relevant sous ces souffles de poésie sombre ou joyeuse qui l'enveloppaient, et passant en une seconde du paradis à l'enfer. Sans le masque qui cachait son visage et dérobait aux yeux l'altération de sa physionomie, il n'eût pas fait quatre pas au milieu de ces salles sans qu'en le montrant du doigt on eût dit « voilà un assassin ». c'est qu'il y avait quelque chose de lâche et de honteux que ne se cachait point Gaston à venir chez un prince, son hôte, pour changer ses lustres ardents en flambeaux funèbres, pour tacher de sang ses tapisseries éblouissantes, pour éveiller la terreur au milieu des bruissements de la fête. Aussi, à cette pensée, son courage l'abandonna-t-il et fit-il quelques pas vers une porte. « Je le tuerai dehors, dit-il, mais non pas ici. » Alors il se rappela l'indication que lui avait donnée le duc, cette carte qui devait lui ouvrir la serre isolée, et il murmura entre ses dents, « Il avait donc prévu que j'aurais peur du monde, il avait donc deviné que j'étais un lâche. » Cette porte vers laquelle il s'était avancé l'avait conduit vers une espèce de galerie où étaient dressés des buffets. Chacun venait à ses buffets boire ou manger. Gaston s'en approcha comme les autres, non pas qu'il eût faim ou soif, mais, nous l'avons dit, il n'avait pas d'armes. Il choisit un couteau long et effilé, et, après avoir jeté un coup d'œil rapide autour de lui pour voir si personne ne le regardait, il le mit sous son domino avec un funèbre sourire. « Un couteau, murmura-t-il, un couteau. Allons, la ressemblance avec Ravaillac sera complète, il est vrai que c'est un petit-fils de Henri IV. » Cette pensée était formulée à peine dans son esprit qu'en se retournant, Gaston vit s'approcher de lui un masque vêtu d'un domino de velours bleu. À quelques pas, derrière cet homme, marchait une femme et un autre homme également masqué. Le domino bleu remarqua alors qu'on le suivait et fit deux pas au-devant de ses masques, dit quelques mots à l'homme avec un air d'autorité qui lui fit baisser la tête d'un air respectueux, et puis revint à Chanlay. « Vous hésitez, » dit-il à Gaston, d'une voix bien connue. Gaston entr'ouvrit son domino d'une main et montra au duc son couteau qui brillait dans l'autre. « Je vois le couteau qui brille, mais aussi je vois la main qui tremble. » « Eh bien oui, monseigneur, c'est vrai, dit Gaston, j'hésitais, je tremblais, je me sentais prêt à fuir, mais vous voilà, Dieu merci. »« Bon, et ce féroce courage ?» dit le duc de sa voix moqueuse. « Ce n'est pas que je l'ai perdu, monseigneur. »« Bon, et qu'est-il donc devenu ?»« Monseigneur, je suis chez lui. »« Oui, mais vous n'êtes pas dans la serre. »« Pourriez-vous me le montrer auparavant, que je m'habitue à sa présence, que je m'exalte de la haine que j'ai pour lui, car je ne sais comment le joindre au milieu de cette foule ?»« Tout à l'heure, il était près de vous. » Gaston frissonna. « Près de moi, dit le jeune homme. »« Tout près de vous, comme j'y suis. » reprit le duc solennellement. J'irai dans la serre, monseigneur, j'irai. Faites donc. Un moment encore, monseigneur, que je me remette. Très bien. Vous savez, la serre est là-bas, au bout de cette galerie. Tenez, les portes en sont fermées. Ne m'avez-vous pas dit, monseigneur, qu'en montrant cette carte, les laquais me l'ouvriraient? Oui, mais mieux vaut encore l'ouvrir vous-même. Les laquais qui vous auraient introduit pourraient attendre votre sortie. Si vous êtes agité ainsi avant de frapper, ce sera bien autre chose après. Et puis le régent ne tombera peut-être pas sans se défendre, sans pousser un cri. Ils accourront, vous serez arrêté, et adieu votre espoir d'avenir. Songez à Hélène qui vous attend. » Il est impossible d'exprimer ce qui se passait dans le cœur de Gaston pendant ces paroles du duc, dont celui-ci paraissait suivre l'effet sur le visage et dans le cœur du jeune homme, sans perdre un mouvement de l'un, sans perdre un battement de l'autre. « Eh bien, » demanda Gaston d'une voix sourde, « que dois-je faire? Conseillez-moi. » « Quand vous serez à la porte de la serre, celle qui donne en face de cette galerie, tournant à gauche, voyez-vous? Oui. » « Cherchez sous la serrure, et vous trouverez un bouton ciselé. Poussez-le, et la porte s'ouvrira toute seule, à moins d'être fermée en dedans. Mais le régent, qui ne se doute de rien, n'aura pas pris cette précaution. Je suis entré 20 fois ainsi en audience particulière. S'il n'y est pas quand vous entrerez, attendez-le. S'il y est, vous le reconnaîtrez bien à son domino noir et à l'abeille d'or. Oui, je sais, monseigneur, dit Gaston, sans savoir ce qu'il disait. » « Je ne compte pas beaucoup sur vous ce soir, » reprit le duc. « Monseigneur, c'est que le moment approche et qu'en une minute, je vais avoir changé toute ma vie passée en un avenir bien douteux, un avenir de honte peut-être, de remords au moins. » « De remords, » reprit le duc, « lorsqu'on accomplit une action que l'on croit juste, une action que commande la conscience, on n'a pas de remords. Doutez-vous donc de la sainteté de votre cause ? Non, messeigneurs, mais il vous est facile de parler ainsi à vous. Vous n'en êtes qu'à l'idée. Moi, j'en suis à l'exécution. Vous n'êtes que la tête. Moi, je suis le bras. Croyez-moi, monseigneur, ajouta Gaston d'une voix sombre et avec un accent étouffé. C'est une chose terrible que de tuer un homme qui se livre à nous sans défense et qui sourit à son meurtrier. Tenez, je me croyais courageux et fort, mais il doit en être ainsi de tout conspirateur qui a pris l'engagement que j'ai pris. On est parti le front haut en disant « Je suis élu », on arrive le front courbé en disant « Je suis maudit ». « Il est temps encore, monsieur, » dit vivement le duc. « Non, non, monseigneur, vous savez bien, vous, qu'il y a une fatalité qui me pousse en avant. J'accomplirai ma tâche, quelque terrible qu'elle soit. Mon cœur frémira, mais ma main restera ferme. Oui, je vous le dis, s'il n'y avait pas là-bas mes amis qui attendent la vie du coup que je vais frapper, s'il n'y avait pas ici Hélène que je couvre de deuil, si je ne la couvre de sang, oh, j'aimerais mieux l'échafaud avec son appareil et même sa honte, car il ne punit pas, il absout. Allons, dit le duc, c'est bien, je vois que vous tremblerez, mais que vous agirez. N'en doutez pas, monseigneur, priez pour moi, car dans une demi-heure tout sera fini. Le duc fit un mouvement involontaire, en approuvant cependant du geste, et il se perdit dans la foule. Gaston trouva une fenêtre entr'ouverte qui donnait sur un balcon. Il sortit et s'y promena un instant pour éteindre par le froid la fièvre qui faisait battre ses artères et refouler le sang qui l'aveuglait. Mais la flamme intérieure qui le consumait était trop vive et elle continua de le dévorer. Il rentra alors dans la galerie, fit quelques pas, s'avança vers la serre, et puis revint, puis s'approcha de la porte et mit la main sur le bouton ciselé. Mais il lui sembla que plusieurs personnes, réunies en groupe à quelque distance, le regardaient. Il revint sur ses pas, retourna à son balcon et entendit sonner une heure à l'église voisine. « Cette fois, murmura-t-il, le moment est venu et il n'y a pas à reculer. Mon Dieu, je vous recommande mon âme. Adieu, Hélène, adieu !» Alors, d'un pas lent mais ferme, il fendit la presse, arriva droit à la porte, pressa le ressort et la porte s'ouvrit silencieusement devant lui. Un nuage passa sur ses yeux. Il se crut dans un nouveau monde. La musique n'arrivait plus à lui que comme une mélodie lointaine pleine de charme. Au parfum factice des essences avait succédé le parfum si doux des fleurs. Au jour éblouissant de mille bougies, le délicieux crépuscule de quelques lampes d'albâtre perdues dans le feuillage. Puis, à travers les feuilles luxuriantes des plantes des tropiques, on apercevait, au-delà du vitrage de la serre, les arbres mornes et dépouillés et la neige couvrant au loin la terre comme un grand linceul. Tout était changé jusqu'à la température. Gaston s'aperçut alors qu'un frisson parcourait ses veines. Gaston avait d'abord fait quelques pas, puis il était resté immobile. Le contraste de cette verdure avec ses salons dorés l'avait consterné. Il lui semblait plus difficile encore d'allier ses pensées de meurtre avec cette suavité d'une nature enchantée, bien qu'artificielle. Le sable mollissait sous ses pieds, doux comme le plus doux tapis, et les jets d'eau élancés jusqu'au sommet des plus grands arbres faisaient entendre leur monotone et plaintive harmonie. Cependant, il continua d'avancer, suivant une espèce d'allée qui faisait des contours sur elle-même, comme fait un chemin tracé au milieu d'un parc anglais. Gaston ne voyait que confusément, car son œil trouble craignait d'y voir. Son regard interrogeait les massifs, craignant d'y distinguer une forme humaine. Parfois, au bruit que faisait derrière lui une feuille qui se détachait de sa tige, tombait en tournoyant, il se retournait saisi d'une vague terreur du côté de la porte et croyait voir entrer la majestueuse figure noire dont ce rêve lui promettait la fatale visite. Rien, il avançait toujours. Enfin, sous un catalpas aux larges feuilles, tout entouré de rhododendrons luxuriants de fleurs, adossés à des buissons où s'épanouissaient en jetant leurs parfums des milliers de roses, il aperçut le fantôme noir, assis sur un siège de mousse et le dos tourné au côté d'où il venait. Gaston recula malgré lui. Sa main gauche s'éloigna du manche du couteau qu'il serra avec le coude de son bras gauche. Tout à coup, il fit un effort désespéré, força ses jambes rebelles à marcher, comme s'il eût voulu rompre une entrave. Ses doigts crispés ressaisirent et enveloppèrent à nouveau le manche du couteau, et il fit plusieurs pas vers le régent en étouffant un gémissement tout près de s'échapper. En ce moment, la figure fit un léger mouvement, et sur son bras gauche, Gaston vit non pas reluire, mais flamboyer l'abeille d'or, qui lui sembla un foyer brûlant, un soleil de flamme. Puis, à mesure que le domino se retournait vers Gaston, les bras du jeune homme se raidissaient, l'écume montait à ses lèvres, ses dents s'entrechoquaient, car un vague soupçon commençait à lui serrer le cœur. Soudain, il poussa un cri déchirant. Le domino s'était levé. Il n'avait pas de masque sur le visage, et ce visage était celui du duc d'Olivares. Gaston, foudroyé, demeura livide et muet. Le régent, car il n'y avait plus à en douter, le duc et le régent ne faisaient plus qu'un même homme, le régent gardait son attitude majestueuse et calme. Il regardait fixement la main qui tenait le poignard, et le poignard tomba. Alors il regarda Gaston avec un sourire doux et triste à la fois, et Gaston s'affaissa sur ses genoux comme un arbre tranché par la hache. Ni l'un ni l'autre n'avait parlé. On n'entendait que le sourd gémissement qui brisait la poitrine de Gaston et l'eau qui, près d'eux, retombait uniformément dans l'eau. « Relevez-vous, monsieur, » dit le régent. « Non, monseigneur, » s'écria Gaston en frappant la tête de son front. « Non, c'est à vos pieds que je dois mourir. » « Mourir, Gaston, vous voyez bien que vous êtes pardonné. Oh, monseigneur, par grâce, punissez-moi, car il faut que vous me méprisiez bien fort pour me pardonner. »« Mais n'avez-vous pas deviné ?» demanda le duc. « Quoi ? » ?»« La cause pour laquelle je vous pardonne. » Gaston, d'un coup d'œil en arrière, repassa toute sa vie, sa jeunesse triste et isolée, la mort désespérée de son frère, son amour pour Hélène, ses jours si longs séparés d'elle, ses nuits si courtes passées au-dessous de la fenêtre du couvent, le voyage à Paris, la bonté du duc pour cette jeune fille, enfin cette clémence inespérée. Mais dans tout cela, il ne voyait rien, ne devinait rien. « Remerciez Hélène, » dit le duc, qui vit que le jeune homme cherchait inutilement la raison de ce qui lui arrivait. « Remerciez Hélène, c'est elle qui vous sauve la vie. »« Hélène, monseigneur, » murmura Gaston, « je ne puis punir le fiancé de ma fille. »« Hélène, mais votre fille, monseigneur, et moi, j'ai voulu vous tuer ?»« Oui, songez à ce que vous avez dit tout à l'heure. On part élu, on revient assassin, et quelquefois même on revient plus qu'assassin, vous le voyez, on revient parricide, car je suis presque votre père, » lui dit le duc en lui tendant la main. « Monseigneur, ayez pitié de moi. Vous êtes un noble cœur, Gaston. Et vous, un noble prince, monseigneur, aussi je vous appartiens désormais corps et âme, tout mon sang pour une larme d'Hélène, pour un vœu de votre Altesse. »« Merci, Gaston, » dit le duc en souriant, « je vous rendrai ce dévouement en bonheur. Moi, heureux par votre Altesse, ah, monseigneur, Dieu se venge en permettant que vous me rendiez tant de bien en échange du mal que j'ai voulu vous faire. » Le régent souriait à cette effusion de joie naïve quand la porte s'ouvrit et donna passage à un domino vert. Le masque s'avança lentement et, comme si Gaston eût deviné qu'il lui apportait la fin de son bonheur, il recula devant lui. À l'expression du visage du jeune homme, le duc devina qu'il se passait quelque chose de nouveau et se retourna. « Le capitaine La Jonquière !» s'écria Gaston. « Dubois !» murmura le duc, et son sourcil se fronça. « Monseigneur, » dit Gaston, en laissant tomber sa tête pâle d'effroi entre ses deux mains, « Monseigneur, je suis perdu. Monseigneur, ce n'est plus moi qu'il faut sauver. J'oubliais ici mon honneur, j'oubliais le salut de mes amis. »« De vos amis, monsieur, » dit froidement le duc, « je croyais que vous ne faisiez plus cause commune avec de pareils hommes. »« Monseigneur, vous m'avez dit que j'étais un noble cœur, eh bien, « croyez en ma parole, Pontcallec, Pontlouit, Alouette et Ducouédic sont de nobles cœurs comme moi. »« De nobles cœurs ?» reprit le duc d'un air de mépris. « Oui, monseigneur, je répète ce que j'ai dit. »« Et savez-vous ce qu'ils ont voulu faire, pauvre enfant, qui fut leur mandataire aveugle, qui fut le bras qu'ils ont mis au bout de leur pensée ? Eh bien, ils ont voulu, ces nobles cœurs, livrer leur patrie à l'étranger. Ils ont voulu rayer la France du nombre des nations souveraines. Gentils hommes, ils devaient l'exemple du courage et de la loyauté. Ils ont donné celui de la lâcheté et de la trahison. Eh bien, vous ne répondez pas, vous baissez les yeux. Si c'est votre poignard que vous cherchez, il est à vos pieds, ramassez-le, il est encore temps. Monseigneur, dit Gaston, en joignant les mains, je renonce à mes idées d'assassinat, j'y renonce en les détestant, je vous demande pardon à genoux de les avoir eues. Mais si vous ne sauvez mes amis, je vous en prie, monseigneur, faites-moi mourir avec mes complices. Si je vis et qu'ils meurent, mon honneur meurt avec eux. Songez-y, monseigneur, l'honneur du nom que votre fille allait porter. » Le régent baissa la tête et répondit, « C'est impossible, monsieur, ils ont trahi la France, ils mourront. » « Je mourrai donc avec eux, reprit Gaston, car moi aussi j'ai trahi la France comme eux, et de plus j'ai voulu assassiner votre Altesse. » Le régent regarda Dubois, le regard qu'ils échangèrent n'échappa point à Gaston. Dubois souriait. Le jeune homme comprit qu'il avait eu affaire à un faux La Jonquière comme à un faux duc d'Olivares. « Non, dit Dubois, en s'adressant à Gaston, vous ne mourrez pas pour cela, monsieur. Seulement, vous comprendrez qu'il y a des crimes auxquels le régent a le pouvoir, mais n'a pas le droit de pardonner. »« Mais il me pardonnait bien à moi, s'écria Gaston. « Vous êtes l'époux d'Hélène, vous, dit le duc. Vous vous trompez, monseigneur, je ne le suis pas. Je ne le serai jamais, et comme un pareil sacrifice entraîne la mort de celui qui le fait, je mourrai, monseigneur. » Oh, dit Dubois, on ne meurt plus d'amour, c'était bon du temps de monsieur d'Urfey et de mademoiselle de Scudéry. Oui, monsieur, peut-être avez-vous raison, mais en tout temps, on meurt d'un coup de poignard. Et à ces mots, Gaston se baissa et ramassa le couteau qui était à ses pieds avec une expression à laquelle il n'y avait point à se tromper. Dubois ne bougea pas, le régent fit un pas. « Jetez cette arme, monsieur, dit-il avec hauteur. Gaston en posa la pointe sur sa poitrine. « Jetez, vous dis-je, répéta le régent. « La vie de mes amis, monseigneur, dit Gaston. » Le régent se retourna vers Dubois, qui souriait toujours de son sourire moqueur. « C'est bien, dit le régent, ils vivront. « Ah, monseigneur, s'écria Gaston, en saisissant la main du régent et en essayant de la porter à ses lèvres. « Monseigneur, vous êtes l'égal de Dieu sur terre. » « Monseigneur, vous faites une faute irréparable, dit froidement Dubois. « Quoi ? S'écria Gaston, étonné, monsieur est donc... « L'abbé Dubois, pour vous servir, dit le faux La Jonquière en s'inclinant. « Monseigneur, dit Gaston, n'écoutez que la voix de votre cœur, je vous en supplie. « Monseigneur, ne signez rien, reprit Dubois. « Signez, monseigneur, signez, répéta Gaston. « Vous avez promis leur grâce, je le sais, votre promesse est sacrée. « Dubois, je signerai, dit le duc. « Votre Altesse l'a décidé, j'ai engagé ma parole. « C'est bien, comme il plaira à votre Altesse. « Tout de suite, n'est-ce pas, monseigneur, tout de suite ? S'écria Gaston. « Je ne sais pourquoi, je suis épouvanté malgré moi, monseigneur. « leur grâce, je vous en supplie. « Monsieur, dit Dubois, puisque son Altesse l'a promise, « qu'importe 5 minutes de plus ou de moins ?» Le régent regarda Dubois d'un air inquiet. « Oui, vous avez raison, dit-il, à l'instant même. Ton portefeuille, l'abbé, hâtons-nous, le jeune homme est impatient. » Dubois s'inclina, en signe d'assentiment, alla vers la porte de l'orangerie, appela un laquais, prit son portefeuille et présenta au régent une feuille de papier blanc sur laquelle celui-ci écrivit un ordre qu'il signa. « Et maintenant, un courrier, dit le duc. »« Un courrier ? S'écria Gaston. « Non, monseigneur, c'est inutile. »«
Et comment cela ?»
Un courrier n'irait jamais assez vite. J'irai moi-même, si votre Altesse le permet. Chaque instant que je gagnerai sauvera un siècle d'angoisse à ces malheureux.
Dubois fronça le sourcil. Oui, en effet, vous avez raison, dit le régent. Partez vous-même. Il ajouta à voix basse, et que cet ordre surtout ne vous quitte pas.
Mais, monseigneur, dit Dubois, vous y mettez plus d'empressement que monsieur de Chanlay lui-même. Vous oubliez, s'il part ainsi, il y a quelqu'un à Paris qui va le croire mort.
Ces mots frappèrent Gaston et lui rappelèrent Hélène, Hélène qui l'avait laissée inquiète dans la crainte d'un grand événement, Hélène qui l'attendait de minute en minute et qui ne lui pardonnerait jamais d'avoir quitté Paris sans la voir. Aussi, en un instant, sa résolution fut prise. Il baisa la main du régent, prit l'ordre sauveur, salua Dubois, et allait sortir lorsque le régent lui dit « Pas un mot à Hélène du secret que je vous ai dévoilé, n'est-ce pas, monsieur ? Laissez-moi le plaisir de lui apprendre moi-même que je suis son père. C'est la seule récompense que je vous demande. » « Votre Altesse sera obéie, dit Gaston, ému jusqu'aux larmes. »
et saluant de nouveau, il se précipita hors de la serre. Gaston sortit, Dubois le suivit quelque temps des yeux, puis lorsqu'il disparut, il se retourna vers le duc. « Qu'avez-vous donc, monseigneur ? » demanda-t-il. « Vous me paraissez inquiet ?»«
Je le suis effectivement, Dubois, » répondit le duc.
« Et pourquoi ? » ?»« Tu n'as pas mis trop de résistance à cette bonne action, cela me tourmente. »
Dubois sourit.
« Dubois, s'écria le duc, tu trames quelque chose ?»«
Non, monseigneur, c'est tout tramé. »«
Voyons, qu'as-tu fait encore ?»«
Monseigneur, je connais votre Altesse. »«
Eh bien ?»«
Je savais ce qui allait se passer. »«
Après ?»«
Qu'elle n'y tiendrait pas tant qu'elle n'aurait pas signé la grâce de tous ces drôles-là. »«
Achève. »«
Eh bien, j'ai envoyé de mon côté aussi un courrier. »«
Toi ?»
Oui, moi, est-ce que je n'ai pas le droit d'envoyer des courriers ?
Si fait, mon Dieu, mais de quel ordre était porteur ton courrier ?
D'un ordre d'exécution.
Et il est parti ?
Dubois tira sa montre. Voici bientôt 2 heures.
Misérable !
Si mon courrier n'avait que 2 heures d'avance, dit Dubois, monsieur de Chanlay le devancerait peut-être, mais il en aura 3.
Pourquoi cela ?
« Parce que le digne jeune homme est amoureux, et qu'en donnant une petite heure pour prendre congé de demoiselle votre fille, je ne lui donne pas trop. »«
Serpent, je comprends alors le sens de tes paroles de tout à l'heure. »«
Il était dans un moment d'enthousiasme, il aurait pu oublier son amour. »«
Vous connaissez mon principe, monseigneur, il faut se défier des premiers mouvements, ce sont les bons. »«
C'est un principe infâme. »« Monseigneur, on est diplomate ou on ne l'est pas. »
« C'est bien, dit le régent, en s'avançant vers la porte. Je vais le faire prévenir. »«
Monseigneur, dit Dubois, en arrêtant le duc avec un accent de fermeté extrême et en tirant un papier tout préparé de son portefeuille, si vous faites cela, ayez la bonté d'accepter auparavant ma démission que voici. »«
Plaisantons, je le veux bien, mais Horace a dit « Est modus in rebus ».
C'était un grand homme qu'Horace, sans compter encore que c'était un galant homme. »
Allons, monseigneur, assez de politique pour ce soir. Rentrez au bal, et demain soir, tout sera parfaitement arrangé. La France sera débarrassée de 4 de ses ennemis les plus acharnés, et il vous restera à vous un gendre fort gentil, que j'aime bien mieux que monsieur de Rion, foi d'abbé.
Et à ces mots, ils rentrèrent tous deux dans le bal.
Dubois, joyeux et triomphant, le duc triste et pensif, mais convaincu que c'était son ministre qui avait raison.
Cependant, Gaston était sorti de la serre, le cœur épanoui par la joie. Ce poids immense qui l'oppressait depuis le commencement de la conspiration et que l'amour d'Hélène avait tant de peine à soulever de temps en temps venait de disparaître, comme si un ange l'eût enlevé de dessus sa poitrine. Et puis Gaston, non seulement sans le pouvoir, mais encore malgré lui, sentait se réveiller dans un coin de son cœur qu'il croyait tout à l'amour, les instincts endormis de l'ambition. Quelle brillante fortune que la sienne, et comme elle l'allait en éclatant faire envie aux Lauzun et aux Richelieu. Plus de Louis XIV imposant, comme à Lauzun l'exil ou l'abandon de sa maîtresse, plus de père irrité combattant les prétentions d'un simple gentilhomme, mais au contraire un ami tout-puissant, avide de tendresse, ayant soif d'aimer une fille si pure et si noble, puis une sainte émulation entre la fille et le gendre pour se rendre plus dignes l'un et l'autre d'appartenir à un si grand prince, à un vainqueur si clément. Il semblait à Gaston que son cœur ne pouvait contenir tant de joie, ses amis sauvés, son avenir assuré, Hélène, fille du régent. Il pressa tellement chevaux et cochers qu'en moins d'un quart d'heure, il était à la maison de la rue du Bac. La porte s'ouvrit devant lui, un cri se fit entendre. Hélène, à la fenêtre du pavillon, attendait son retour. Elle avait reconnu la voiture et s'élançait joyeuse à la rencontre de son ami.
« Sauvé !» s'écria Gaston en l'apercevant. « Sauvé, mes amis, moi, toi !»«
Oh mon Dieu !» dit Hélène en pâlissant. « Tu l'as donc tué ?»«
Non, non, Dieu merci. Oh, Hélène, quel cœur que le cœur de cet homme et quel homme que ce régent. Oh, aime-le bien, Hélène. Tu l'aimeras aussi, n'est-ce pas ?»«
Explique-toi, Gaston. »
« Viens, viens, et parlons de nous. Je n'ai que quelques instants à te donner, Hélène, mais le duc te dira tout. »«
Une chose avant toute chose, dit Hélène. Quel est ton sort à toi, Gaston ?»«
Le plus beau du monde, Hélène. Ton époux, riche, honoré, Hélène. Je suis fou de bonheur. »«
Et tu me restes enfin ?»«
Non, je pars, Hélène. »«
Mon Dieu, mais pour mieux revenir ?»
Encore séparés, oh, 3 jours au plus, 3 jours seulement, je pars pour aller faire bénir ton nom, le mien, celui de notre protecteur, de notre ami.
Mais où vas-tu ?
À Nantes.
À Nantes? Oui, cet ordre renferme la grâce de Pontcallec, de Montlouis, de Talouette et de Couédic. Ils sont condamnés à mort, comprends-tu, et ils me devront la vie. Oh, ne me retiens pas, Hélène, et songe à ce que tu as souffert tout à l'heure en m'attendant. Et par conséquent à ce que je vais souffrir encore. Non, non, Hélène, car cette fois, aucun obstacle, aucune crainte. Cette fois, je suis sûr que je reviendrai. Gaston, ne te verrai-je donc jamais qu'à de rares intervalles, et pour quelques minutes? Ah, Gaston, j'ai cependant bien besoin d'être heureuse, va. Tu le seras, sois tranquille. J'ai le cœur serré. Oh, quand tu sauras tout. Mais alors dis-moi tout de suite ce que je dois apprendre plus tard. Hélène, c'est la seule chose qui manque à mon bonheur que de tomber à tes pieds et de tout te dire. Mais j'ai promis, j'ai fait plus, j'ai juré. Ah, toujours des secrets. Celui-là, du moins, est plein de bonheur. Oh, Gaston, Gaston, je tremble. Mais regarde-moi donc, Hélène, regarde, et en voyant tant de joie dans mes yeux, ose me dire encore que tu as peur. Pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec toi, Gaston? Hélène, je t'en prie, partons ensemble. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans 20 heures je sois à Nantes. Ah, je te suivrai, dussé-je mourir de fatigue. Ensuite, parce que ton sort ne t'appartient plus, tu as ici un protecteur à qui tu dois respect et obéissance. Le duc? Oui, le duc. Quand tu sauras ce qu'il a fait pour moi, pour nous, laissons-lui une lettre, il nous pardonnera. Non, non, il dirait que nous sommes des ingrats, et il aurait raison. Non, Hélène, tandis que je vais en Bretagne, rapide, comme un ange sauveur, toi, tu resteras ici, tu hâteras les préparatifs de notre mariage, et moi, tout à coup, j'arriverai, je t'appellerai ma femme, et à tes pieds, je te remercierai, à la fois du bonheur et de l'honneur que tu me fais. « Tu me quittes, Gaston ! » s'écria la jeune fille d'une voix déchirante. « Oh, pas ainsi, Hélène, pas ainsi, car je ne te quitterai pas. Oh, bien au contraire, sois joyeuse, Hélène, souris-moi et dis-moi, en me tendant ta main si pure et si loyale, pars, Gaston, c'est ton devoir de partir. » « Oui, mon ami, dit Hélène, peut-être devrais-je dire cela, mais en vérité, je n'en ai pas la force, pardonne-moi. Oh, Hélène, c'est mal, quand moi je suis si joyeux. » Que veux-tu, Gaston, c'est plus fort que ma volonté. Gaston, tu emportes la moitié de ma vie, songe-y bien. Gaston entendit sonner 3 heures et tressaillit. Adieu, dit-il, adieu. Adieu, murmura Hélène. Et il lui serra encore une fois la main qu'il baisa une dernière fois, et s'élançant hors de la chambre, il courut vers le perron au bas duquel hennissaient les chevaux, refroidis par le vent glacé du matin. Mais au moment où il venait de descendre, il entendit les sanglots d'Hélène. Il remonta rapidement et courut à elle. Elle était sur la porte de la chambre qu'il venait de quitter. Gaston s'enlaça dans ses bras, et elle se suspendit, toute défaillante à son cou. « Oh, mon Dieu ! S'écria-t-elle, tu me quittes donc ! Tu me quittes donc, Gaston ! Écoute bien ce que je te dis, nous ne nous reverrons plus !»« Pauvre ami, pauvre folle ! » s'écria le jeune homme, le cœur serré malgré lui. « Oui, folle, mais de désespoir, » répondit Hélène, et ses larmes inondèrent le visage de Gaston. Tout à coup, comme après un combat intérieur, elle colla ses lèvres aux lèvres de son amant en l'étreignant avec ardeur, puis le repoussant doucement. « Vas-y, » dit-elle, « va, Gaston, maintenant je puis mourir. » Gaston répondit à ce baiser par des caresses passionnées, mais en ce moment 3 heures et demie sonnèrent. « Encore une demi-heure qu'il faudra regagner, » dit-il. « Adieu, adieu, Gaston, pars, tu as raison, tu devrais déjà être parti. Adieu et à bientôt. Adieu, Gaston. » Et la jeune fille resta silencieuse dans le pavillon, comme une ombre dans son tombeau. Quant à Gaston, il se fit conduire à la poste, demanda le meilleur cheval, le fit seller, s'élança dessus et sortit de Paris, franchissant cette même barrière par laquelle il était entré quelques jours auparavant.